Paroles d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Agora Côte d'Azur s'intéresse à tous les publics et ce soir, cette émission va être consacrée en priorité aux adolescents comme élèves et étudiants. Plus précisément, nous allons aborder la question de la philosophie. Et pour ce faire, nous avons sollicité un professeur, Jean-Marc Dagrève, qui est professeur de philosophie au lycée Amiral de Grasse, qui a organisé avec sa classe, et plus précisément quelques élèves, Gwénoline, Lisa, Mélisse, Salomé, Thibault, Virginie, Maxime, une réunion pour débattre de la question suivante qu'ils ont eux-mêmes choisie, la philosophie peut-elle et comment m'aider à mieux vivre? Alors avant de leur donner la parole, nous avons été reçus par Madame la proviseure, comme disait les Québécois, pour rendre hommage à la femme, et nous l'écoutons d'abord, si vous voulez bien.
Tu frappes un grand coup, ça commence. Comme au théâtre, hein.
Madame le proviseur, je vous remercie de nous recevoir quelques instants en prélude à l'émission enregistrée dans votre établissement. Construit en 1908, si ma mémoire est bonne, inauguré en 1909 par le président de la République, Falière, il prend le nom, je crois, de lycée Amiral de Grasse en 1969. Alors son nom rend hommage à François-Joseph Paul, qui était comte de Grasse, amiral français, durant la guerre d'indépendance des États-Unis, et vous avez fêté le centenaire en 2009. Vous allez vous aussi bientôt quitter l'établissement, un établissement qui est de plus en plus prestigieux et reconnu, non seulement parce que c'est un amiral, mais parce qu'il s'y passe des choses de qualité et parfois peu connues du public. Je pense par exemple à la revue Les Raisins Verts, qui tous les ans sont présentés au Festival de Montsartou. Madame le proviseur, vous qui allez quitter cet établissement, si vous aviez un projet à formuler pour les 10 ans qui viennent, et pour votre l'établissement, ça serait lequel ?
Eh bien, ça serait de poursuivre le travail entrepris depuis déjà quelques années, que j'ai essayé de développer lors de mon arrivée, c'est-à-dire permettre aux élèves à la fois de bien vivre au lycée, mais surtout de réussir au mieux les échéances qui sont les leurs, parce que c'est notre tâche peut-être au quotidien, mais ça doit rester vraiment une priorité. Et en particulier, qu'ils fassent le travail nécessaire de se projeter bien au-delà du baccalauréat. Parce que la réussite du baccalauréat, c'est la clé de tout, mais réussir son post-bac, et en particulier sa première année et son choix, c'est quand même quelque chose de grande évidence. Et on constate chaque année que de réitérer ses remarques et ses conseils, c'est quand même quelque chose qui doit s'inscrire et qui doit vraiment les marquer. Le lycée est un lycée à la fois d'histoire et de modernité. Donc je crois que cette qualité doit perdurer dans une convivialité de travail au niveau des équipes et au niveau des relations entre les personnels et les élèves. C'est vrai que les élèves ont un réel plaisir à venir ici. Bon, bien sûr, ils ont des obligations, mais il y a un certain climat, un climat amiral. Et ça aussi, c'est une des images de marque qui doit perdurer et dont le quotidien nous montre qu'elle est de plus en plus prête à le faire. Voilà.
Merci Madame la proviseure. Retenons que le climat amiral de Grasse, c'est la convivialité, donc la fraternité, et que vous concrétisez fort bien cette expression, le diplôme, une condition nécessaire, mais non suffisante. Merci Madame. Alors nous allons passer maintenant à l'émission.
Très bien.
Alors voici la première séquence de cet entretien entre le professeur Jean-Marc Dagrève et ses étudiants. Écoutons-la à l'été à Brut, puis nous écouterons dans la deuxième partie la suite, et je vous ferai quelques commentaires sur la philosophie. Préparez un papier, un crayon, quel que soit votre âge. Écoutons. L'enseignant Jean-Marc Dagrève, professeur de philosophie, devant toute la classe, où il y a surtout des terminales L, mais aussi des S. 7 élèves ont été plus précisément choisis, mais tous ceux qui sont dans la classe vont pouvoir poser des questions. Ce débat, la philosophie peut-elle et comment nous aider à mieux vivre ? Alors Jean-Marc, j'ai d'abord envie de m'adresser à vous et de vous dire, mais enfin, la philosophie, c'est souvent pour les adolescents un cours d'auteur de leurs idées, plus rarement de leur vie. L'enjeu semble se réduire à l'épreuve de philosophie et pour cela d'apprendre les bonnes citations pour avoir de bons points. Et alors, cette conception de la philosophie m'apparaît tellement conformiste, tellement formelle, que je me demande comment le désir de philosophie peut exister dans les élèves. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et là, j'ai envie de commencer par deux citations. L'une peu connue de Timmermans, qui dit « Mais où est donc ce cri de la philosophie ? Car être philosophe, ce n'est pas écrire, c'est vivre. » Et puis cette citation merveilleuse de Shakespeare, comment ne pas l'écouter ? Il dit « Je n'ai jamais vu un philosophe qui partiellement pu endurer un mal de temps. » Alors Jean-Marc, devant cette conception de la philosophie liée à la vie, qu'est-ce que vous avez envie de répondre ?
Je dirais d'abord qu'effectivement, la philosophie apparaît dans le cadre de la scolarité des élèves comme un enseignement qui est donné essentiellement en classe de terminale. Mais cet enseignement n'a pas seulement pour finalité, car alors cela n'aurait pas de sens, s'agissant de la philosophie, que de permettre de réussir à un examen. Et pour ma part, je n'aurais jamais été enseignant en philosophie, mais alors vraiment jamais, s'il s'était agi uniquement de préparer mes élèves à la réussite d'un examen. Bien qu'il est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à cela, déontologiquement parlant. Je dirais donc que si il est prévu en France, parce que c'est quand même une spécificité française, d'initier des élèves en classe de terminale à la philosophie, c'est afin aussi de leur donner les moyens d'avoir un exercice de leur pensée davantage maîtrisé, davantage approfondi, un regard sur les réalités plus lucide, plus pénétrant. Et au-delà de cela, et là nous rejoignons une tradition qui est très ancienne et qui est aussi celle que moi-même je partage, on ne peut pas dissocier, je le crois, la philosophie d'un certain art de vivre. Donc la philosophie, c'est pas seulement des théories qu'on étudierait ou des livres qu'on ne cesserait de lire, c'est aussi une certaine sagesse, un certain art de vivre que l'on construit soi-même à partir effectivement des réflexions dans lesquelles on s'est engagé dans le cadre d'une formation, mais aussi dans le cadre d'une recherche personnelle. Donc je ne peux pas comprendre autrement l'enseignement de la philosophie en classe terminale que comme un auxiliaire, une aide pour des jeunes gens dans le cadre d'une vie où ils auront à être confrontés à toutes sortes de situations, d'épreuves, où ils auront à penser leur rapport au monde de la manière la plus adéquate, la plus juste possible. Je crois que ici, donc, la philosophie, dans le cadre de la classe terminale, peut apporter un certain éclairage, sans quoi, je le répète, je ne l'aurais jamais moi-même exercé en classe. C'est évident. Si ça s'était résumé à préparer le bac, je n'aurais jamais fait professeur de philosophie.
Alors Jean-Marc, partant de cette posture du professeur de philosophie, tout à fait remarquable, je regrette personnellement de ne pas avoir fait mon secondaire, je ne connais pas la philosophie, ce qui ne m'a pas empêché d'être professeur d'université, comme quoi vous voyez, tout est possible dans la vie, je vous le rappelle au passage, tout est possible. Tout est possible. Alors, j'ai envie de dire maintenant, écoutons-les, quelles sont les questions qu'ils se posent. Allez-y. C'est Lisa.
Est-ce qu'il faut vivre d'abord et philosopher ensuite ? Ou est-ce qu'il faut... est-ce qu'il y a une opposition entre réussir sa vie et philosopher ?
Alors, effectivement, dans le cadre de nos réunions, nous sommes partis d'un cheminement, enfin nous avons constitué un cheminement en 5 étapes, et la première de ces étapes, en philosophie traditionnellement, on se réfère d'abord à la doxa, l'opinion commune. On commence par examiner cette opinion pour tâcher de la dépasser. Et effectivement, il semblerait que l'opinion fasse de la philosophie quelque chose d'assez inutile pour vivre, qu'on puisse être, je ne dis pas heureux, mais vivre bien, sans le secours de la philosophie. Et tu citais un adage latin célèbre, primum vivere deinde philosophare. Effectivement, alors, n'est-ce pas, la philosophie, ça serait plutôt réservé à des gens qui n'ont plus tout à fait les forces et les moyens de vivre. les anciens, hein, les personnes âgées. Bon, on vit d'abord, on profite de la vie, on construit sa vie, et puis une fois qu'il n'y a plus grand-chose à faire, et que de toute façon, on ne peut plus faire grand-chose, alors bon, on se met à philosopher. Voilà. Mais effectivement, de ce point de vue, pourquoi la philosophie, la vie peut s'en passer, la vie humaine, et tu parlais de réussite dans la vie, la réussite dans la vie peut se faire indéniablement sans le secours aucun de la philosophie. Nous avons de très riches milliardaires qui n'ont jamais philosophé. Aristote le disait déjà d'ailleurs. Il y a un texte célèbre d'Aristote où Aristote malheureusement, n'est-ce pas, ici, constate que le philosophe en général n'est pas très riche et qu'il est obligé d'aller à la porte des gens très riches qui, eux, n'ont jamais philosophé et ne s'intéressent pas à la philosophie. Mais qui ont réussi dans la vie. Est-ce que pour autant ils ont réussi leur vie ?
Est-ce que ça correspond à votre question, Lisa ?
Oui.
Bon. Une autre question ? Maxime ?
Moi, je me demandais si la philosophie, c'est une perte de temps ou pas. Si on peut dire que c'est une perte de temps de philosopher.
Alors, qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, c'est important d'écouter.
Moi, je pense que c'est intéressant de philosopher, ça permet d'avoir un autre regard sur les choses qui nous entourent, sur qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est quoi notre but, pourquoi on est là. Mais il y a des moments où c'est vrai que je m'en passerai bien.
Oui, alors peut-être parce qu'effectivement, en terminale littéraire, l'enseignement de philosophie s'étale sur 8 heures, voire plus, hein, davantage. Que dans ce programme de philosophie, il y a, c'est vrai, je suis moi-même d'accord, mais il faut bien que nous fassions ce programme, nous autres professeurs de philosophie, il y a des notions plus abstraites et qui semblent moins liées aux problèmes existentiels, comme on dit. Et puis d'autre part, effectivement, perdre son temps, c'est aussi perdre une partie de sa vie. Alors il serait dommageable que la philosophie soit une perte de temps, vécue comme une perte de temps. Mais je crois que, en l'approfondissant, et en l'approfondissant à titre personnel, indépendamment ici d'un enseignement, par toi-même, dans ta propre vie, par tes lectures, par ta réflexion, c'est Platon qui disait que, si c'est quelque chose, je crois, tout à fait capital, le dialogue, c'est l'entretien d'abord de l'âme avec elle-même, c'est toi qui te parles à toi-même, réfléchir toi-même. Donc il y a une philosophie qui n'est jamais une perte de temps quand elle est un travail que tu fais personnellement, une recherche que tu fais personnellement, et quand ton âme dialogue avec elle-même. Voilà.
Donc il faut savoir perdre du temps de temps en temps.
Après avoir envisagé la possibilité d'une philosophie qui ne serait pas vraiment utile à la vie, qu'il serait préférable, de consacrer sa vie au plaisir qu'elle peut apporter et à sa réussite professionnelle, en tout cas à sa réussite dans la vie, nous avons abordé dans notre réflexion la question donc, qui serait la suivante. Non seulement... pourrait-on se passer de la philosophie, mais encore, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de s'en passer ? Ne faudrait-il pas se méfier de la philosophie ? Ne faudrait-il pas ici s'en défier et éviter, nous sommes ici alors dans le falloir et puis dans la possibilité, éviter de philosopher, parce que ça pourrait être dangereux, ça pourrait être déstabilisant. Alors je crois qu'elles ont des choses à nous dire.
On vous écoute.
Donc... est-ce qu'il y a un moyen pour que la philosophie aborde plutôt bonheur que malheur, sachant ça ?
Donc, dans ce sens, tu nous disais que, en nous faisant découvrir dans le cœur de l'homme une méchanceté qui serait inhérente à sa nature, elle nous ferait désespérer de l'homme. Et donc, du coup, n'est-ce pas, elle serait un handicap pour une vie bonne. Que pourrais-tu ajouter, ça voulait discuter.
Personnellement, j'ajouterais que grâce à vous, nous avons étudié Descartes et son doute cartésien. Et le doute cartésien n'est peut-être pas la chose la plus heureuse au monde. Nous avons ajouté à cela les psychoses, les gens qui finissent par se rendre compte, se dire que le monde qui les entoure n'existe plus, devenir dangereux pour eux-mêmes et pour les autres, pas forcément très heureux comme condition.
Oui, alors on a effectivement examiné avec Descartes la possibilité d'une illusion massive. Vous vous souvenez les uns les autres, hein, un doute extrême qui nous mène à la pointe de l'angoisse, au point que Descartes a l'impression de s'enfoncer dans une nuit noire. Il a l'impression aussi le sentiment de se noyer, ou même de devenir fou. Tout le réel semble s'être évaporé, il ne reste plus rien. Est-ce que j'existe même ? Alors, est-ce que la philosophie nous conduit à un scepticisme complet qui exercerait une force paralysante sur notre action, qui nous empêcherait d'avoir des projets, des espérances ? Est-ce que, à cause du doute philosophique, nous serions toujours dans l'hésitation et du coup, ne serions-nous pas amenés à rater bien des possibilités ? Le doute, dans sa forme systématique, peut créer aussi, tu as raison de le rappeler, peut créer une certaine forme de pathologie mentale. Il peut y avoir une névrose de doute, du doute au sens freudien. Douter, c'est souffrir. Douter, c'est ce que Hegel appelle l'épreuve du doute, et qu'il compare à une sorte de supplice, de tourment, la nuit noire du doute. Alors, vaut mieux peut-être la croyance ou l'illusion qui rassure que le doute qui angoisse. Voilà, on peut poser la question.
Alors, il y a d'autres questions qui se posent, je pense, encore.
Il s'agit de voir ce qui, au-delà du doute, peut se présenter comme constituant une positivité réelle de la philosophie. Alors, peut-être, Maëlys, tu avais là-dessus quelque chose à me dire.
Est-ce que c'est bon aussi de toujours douter ? Est-ce que justement, voilà, toujours douter, ce serait pas finalement rater sa vie, passer à côté de sa vie ? Et est-ce qu'on trouve toujours, parce qu'on trouve pas toujours les réponses aux doutes, donc au bout d'un moment, il faut juste passer outre.
Agir, vivre et ne plus douter.
Oui.
De toute façon, n'est-ce pas la vie elle-même qui nous y contraint ? Il faut bien se nourrir, il faut bien vivre, biologiquement parlant. Hein ? Et ceci nous amène à quantité d'actions. Est-ce que le doute est nécessairement ce qui définitivement met fin à l'espérance ? Est-ce que le doute est ce qui définitivement nous empêche de nous engager et de nous décider même, hein ? Nous savons qu'à travers notamment Descartes, il y a possibilité de surmonter le doute, mais il faut passer par le doute. Voilà, il faut passer par le doute. L'épreuve du doute est nécessaire parce que c'est par le doute, justement, que nous parvenons à dépasser ce qui relève de croyances qui sont illusoires, ce qui relève d'apparences trompeuses. Par le doute, nous allons plus loin que la croyance ou l'apparence. Et dès lors, nous nous libérons d'une certaine façon. Et dépasser cette croyance ou ces apparences qui, en définitive, nous aliènent, est-ce que ce n'est pas vivre mieux, au sens, est-ce que ce n'est pas davantage réaliser notre humanité ? Parce que notre humanité, elle n'est pas faite pour rester dans l'illusion, elle n'est pas faite pour demeurer dans le non-questionnement. Si nous avons, comme le dit Aristote, si nous sommes esprit, alors il n'y a pas d'esprit sans le doute. Le Malebranche disait l'esprit qui ne doute plus, descend au-dessous de l'esprit. Ou encore, le doute est le sel de l'esprit. Ou encore, Hegel dit, le doute c'est l'esprit, c'est la vie même de l'esprit. Donc cette vie passe par l'épreuve vraiment du doute. Le calvaire, dit Hegel, du doute, mais au-delà de cette épreuve, l'esprit en ressort peut-être plus vivant que jamais, c'est-à-dire capable de bien mieux penser par lui-même et capable, cette fois-ci, d'aller au-delà de ce qui domine en général dans la pensée humaine, le règne de l'opinion commune et la tyrannie des apparences. Voilà ce que je pourrais te répondre.
Ce qui n'est pas du tout la même chose.
Voilà.
La deuxième partie va être présentée après les informations et je vous présenterai à tout public j'insiste, une dizaine d'ouvrages sur la philosophie après vous avoir expliqué les trois grandes orientations de la philosophie. Nous écoutons les informations et nous allons entendre ensuite la suite. La philosophie peut-elle et comment m'aider à mieux vivre ? Pour tenter de répondre à cette question, nous allons d'abord continuer d'écouter l'entretien entre Jean-Marc Dacrève et ses étudiants au lycée Amiral de Grasse. Alors, poursuivons cette émission, Jean-Marc et tous les étudiants qui sommes autour de nous, je crois, dans une toute autre perspective, qu'est-ce que finalement la philosophie peut nous faire gagner en humanité ? Qu'est-ce qu'elle apporte à la question du bonheur ? Alors, Jean-Marc, je vous laisse continuer.
Merci. Effectivement, nous avons jusqu'ici insisté sur le caractère douloureux du doute, la remise en question, une épreuve pour chacun d'entre nous. Kant avait raison de dire que par paresse et par lâcheté, l'homme a tendance à en rester à des certitudes qu'on lui a davantage implantées dans l'esprit qu'il a acquises lui-même par la réflexion. Mais au-delà donc de ce travail du doute et de cette réalisation d'une certaine indépendance de la pensée qui caractérise l'humain en tant que tel, qui est capable de penser par lui-même librement, on peut envisager maintenant tout ce que la pratique et la vie philosophique peuvent apporter au perfectionnement de l'humanité d'un homme, à la plénitude de son humanisation. Alors, certains de nos élèves vont intervenir, à qui je vais poser des questions, et puis je compléterai un peu. Alors, je commencerai par Thibault. Thibault, donc, dans cette vie philosophique, cette pratique philosophique qui serait utile au bien-vivre, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant ?
Je vais essayer de parler de la sagesse, en quoi la philosophie mène à la sagesse. Si on s'intéresse au mot philosophie étymologiquement, on verra que ça vient du grec philosophia, qui a la notion de sagesse, et que cette sagesse, elle existe grâce au savoir, à la connaissance. La philosophie nous permet aussi de devenir d'autres hommes, de nous changer, une certaine remise en question, et aussi une pensée peut-être plus libre grâce aux différentes théories, grâce à l'étude des différents philosophes, des différents courants de pensée qu'on peut s'approprier ou qu'on peut réfuter.
Virginie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Je pourrais surtout peut-être parler de mon expérience personnelle, parce qu'en seconde, j'ai lu le discours de la méthode de Descartes, et justement, le doute, pas comme Maïs, qui l'a vu un peu comme quelque chose de négatif, ça a été quelque chose d'assez positif pour moi, parce que justement, j'ai remis en question tout ce que j'avais appris de mon éducation, et ça a fait, moi, une personne nouvelle, justement. Je pense que ça a été quelque chose de positif. Et c'est surtout le doute qui m'a beaucoup marqué, le fait de douter tout. Bon, il ne faut pas que ça soit excessif, parce qu'après, ça peut, j'ai failli devenir folle, oui, vraiment, au bout d'un moment. Mais si ça reste quand même modéré, je pense que ça peut être quelque chose de très bien, plutôt que de prendre tout pour acquis, ce qui est quand même la tendance naturelle de l'être humain, de prendre tout pour acquis sans remettre en question les choses. Justement, pour moi, ça a été quelque chose de bien de remettre en question les choses, parce qu'il y a des choses, des fois, dans l'éducation qui sont négatives, et on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne remet pas en question la chose. Donc pour moi, c'était quelque chose de positif, la philo. Donc voilà.
Alors, j'ai une question à vous poser, pas seulement à vous deux, mais à tous, concernant effectivement ce que la philosophie peut apporter au mieux vivre. Vivre, c'est aussi vivre parmi les autres, vivre avec les autres. Est-ce que vous avez l'impression que la philosophie peut nous aider à construire un rapport à l'autre plus humain ? En définitive, je ne peux pas m'humaniser vraiment si je n'humanise pas aussi mon rapport à l'autre. Et dans ce sens, est-ce que la philosophie n'a pas un rôle précieux dans la construction, l'élaboration d'un rapport non pas déshumanisé, mais au contraire humanisant à l'autre? Autrement dit, est-ce qu'elle ne favorise pas effectivement un bon rapport à l'autre? Voilà, je voudrais vous entendre un peu là-dessus. Vous pouvez tous parler.
Qu'est-ce que vous entendez par plus humain exactement?
C'est-à-dire que...
C'est difficile, ce complexe, ouais. C'est complexe à comprendre plus humain, parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, je pense alors à une chose, la première chose à laquelle je pense à l'altérité des cultures. Est-ce que, je pense par exemple à quelqu'un comme Michel de Montaigne, ou bien entendu à Claude Lévi-Strauss, qui sont d'éminents philosophes, bien entendu. Est-ce que nous ne comprenons pas, à travers eux, combien, en définitive, l'altérité des autres cultures n'est pas un danger, une menace, ou bien encore, combien nous comprenons que nous n'avons pas le droit d'ériger en modèle notre culture, mais au contraire, combien nous voyons ici la richesse propre à chaque culture, à chaque civilisation. Et du coup, en comprenant cette richesse, ne nous rapprochons-nous pas de l'autre en tant qu'il appartient à une autre civilisation? Voyez-vous? C'est ce que je voulais vous demander. Peut-être Maëlys a quelque chose à dire là-dessus.
Moi, je voyais plus au niveau du respect de la personne, ce que ça nous enseigne, qu'une personne, c'est une fin en soi, et jamais un moyen et tout ça.
Oui. Dans la morale de Kant, oui, oui, oui. Alors, très bien. Effectivement, alors, aussi, à travers cette partie de la philosophie qu'on appelle l'éthique, nous comprenons qu'il existe une fin en soi, c'est-à-dire un absolu, qui est la personne. Et que ce qui doit caractériser notre rapport à la personne, comme tu l'as dit, c'est le respect. Dans la mesure où la personne a une éminente dignité. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, tous ensemble, que un autre aspect positif de la philosophie, en tant que nous permettant d'humaniser davantage notre rapport à l'autre, ce serait le dialogue philosophique, le dialogue autour d'un thème philosophique? Est-ce que le dialogue philosophique, c'est pas ce qui rapproche les hommes?
Ça peut les séparer aussi, oui. Parce que souvent dans les débats philosophiques, c'est animé, il y a beaucoup d'avis divergents, et des fois ça peut dégénérer. Donc là-dessus, je pense pas que le dialogue puisse rapprocher les gens.
L'exploration d'un thème peut-être, mais pas le dialogue.
Ouais, voilà, parce que ça dépend avec qui on dialogue après.
Oui, c'est sûr. Ouais. Encore, ça permet de remettre en valeur les différents points de vue de ses amis, de se rendre compte de ce qu'ils pensent et de mieux les comprendre. Ouais, ça peut aussi accentuer les différences.
Oui, voilà.
On en revient à notre première partie. La philosophie n'aide pas forcément à mieux vivre.
Mathilde, tu es un garçon de dialogue, des femmes, nous savons. Hein, est-ce qu'il trouve dans le dialogue un terrain favorable à une communication qui est humanisante?
Effectivement, je pense que tout d'abord, ça dépend avec qui on parle. Mais après, même si les avis divergent, je pense que en parler, rien que le fait d'en parler, ça rapproche les gens, je pense. Rien que déjà essayer d'avoir cette discussion, enfin une discussion philosophique ou même pas philosophique avec quelqu'un, ça rapproche forcément les gens. C'est même si ça peut accentuer les différences, au final, ils se connaîtront toujours mieux qu'avant, quoi, que s'ils n'avaient pas eu cette discussion.
Donc, en ce sens, nous sommes bien d'accord, il y a un mieux vivre parce qu'il y a un rapprochement des hommes grâce et par le dialogue. Alors, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'il est vrai que nous n'avons pas étudié pour le moment encore le thème du langage, mais en ce qui concerne le dialogue philosophique, ce qui le caractérise, c'est qu'il a lieu entre des personnes qui ne cherchent pas à se dominer. Personne dans un véritable dialogue philosophique, les Grecs l'appelaient le dialectikotoron, personne dans un dialogue philosophique ne cherche à avoir raison. Chacun est prêt à entendre l'autre et l'objection de l'autre. Et personne ne poursuit sa péroraison tant qu'il n'a pas l'accord entier des autres. Voyez-vous, hein, ici, il y a une volonté commune de progresser vers une compréhension meilleure. de progresser vers, sans peut-être nécessairement l'atteindre, vers une vérité. Dans le respect, dans la reconnaissance de la stricte égalité des personnes, et jamais dans un but polémique. Trop souvent, c'est vrai, le dialogue, c'est plus, hein, le dialogue est plus agonistique, c'est plus une lutte, un combat, hein, où on veut avoir raison, où on ne s'entend pas. Là, non. Le dialecticotoron, tel qu'en parle Socrate, et on avait étudié au tout début de l'année un texte où Socrate parlait des vertus du philosophe, c'est vraiment la communication chaleureuse, libre et authentique entre des gens qui ont envie de progresser ensemble vers une véritable compréhension. Alors là, je pense que on peut avoir des espérances, de véritables espérances, en une meilleure qualité des rapports humains et donc une amélioration de notre vie humaine. Vous voyez ? Est-ce que vous seriez d'accord ?
Oui.
Moi, oui.
Enfin, faut relativiser aussi quand même. Enfin, quand on voit les Freud et Sartre s'entre-déchirant sur la psychanalyse, le dialogue philosophique n'était pas vraiment ouvert comme on le souhaiterait. Mais c'est vrai que les philosophes de l'Antiquité grecque avaient la réputation de laisser les autres parler, d'écouter et d'en discuter. C'était peut-être mieux avant, quoi.
Oui, c'est la mentalité moderne qui fait qu'il faut qu'il y ait des polémiques tout le temps. Les hommes s'entre-déchirent au lieu... Du coup, la philosophie, oui, ça peut peut-être aider à relativiser les rapports humains dans ce contexte-là.
Oui. Est-ce que vous êtes d'accord aussi qu'elle nous permet de rejoindre l'autre dans son altérité culturelle ? C'est-à-dire, même s'il est différent au plan culturel, au plan du monde, de la civilisation auquel il appartient.
Quelle que soit la langue qu'on parle, les notions philosophiques sont présentes dans toutes les langues. Alors que certains mots peuvent disparaître d'une langue à l'autre, mais les notions philosophiques sont toujours présentes.
Alors, j'ai pensé aussi à autre chose, et j'aimerais vous écouter. Est-ce que, puisque la philosophie permettrait donc un exercice plus juste, plus lucide de notre liberté, est-ce qu'elle ne nous conduit pas aussi à un exercice mieux averti de notre condition de citoyen ? Et là, on aborde le domaine politique. Est-ce que donc elle ne nous rend pas plus lucides et plus justes dans nos décisions au niveau politique ? J'aimerais aussi vous entendre.
Il suffirait de parler des philosophes des Lumières ?
Oui, c'est vrai.
Qui ont pris conscience de leur situation grâce à la philosophie. On peut prendre Rousseau, par exemple, sans doute un des plus connus, avec Voltaire. Ils ont compris ce qui se passait et qui ont philosophé dans les cafés pour faire entendre leur voix aux autres. Et ça aboutit à la Révolution française, un des plus grands changements de notre histoire.
Si vivre mieux, c'est vivre de manière plus humaine. Et si, suit le raisonnement, donc vivre en tant qu'homme, c'est aussi vivre en tant que citoyen, est-ce que la pratique de la philosophie n'améliore pas notre vécu et notre action de citoyen ? Voilà. Autrement dit, est-ce qu'elle n'a pas une incidence aussi sur notre existence politique, qui est positive ? Voilà, simplement.
Ça dépend peut-être de la conception qu'on a déjà de la citoyenneté, et du rôle qu'on peut avoir, et puis de nos capacités, puis aussi la morale qu'on a.
Donc, tu es dubitative, comme on dit. Oui. Voilà, d'accord.
Alors, cette émission va se conclure dans un instant, mais si je comprends bien, le doute n'est resté présent pendant toute l'émission, Jean-Marc.
Le doute persiste et signe.
Voilà, tout voilà. À fait.
Voilà, vous avez le compte-rendu d'un débat philosophique au lycée Amiral de Grasse avec Jean-Marc Dagrève. Merci à Jean-Marc et à ses étudiants, merci au lycée Amiral de Grasse, mais revenons à cette question. La philosophie peut-elle et comment m'aider à mieux vivre ? Alors vous avez compris à travers ce débat, on va dire scolaire, inévitablement scolaire, certaines conceptions de la philosophie. Je voudrais reprendre, il me semble qu'il y a quatre grandes conceptions de la philosophie, et je crois que ceci nous intéresse tous, et quel que soit notre âge. Il y a la première conception qui est d'étudier, dans le temps, les philosophes et les thèmes qu'ils ont abordés. À ce moment-là, il y a une approche classique, c'est celle qui est assez prioritaire pour le bac, avec encore une fois les bonnes citations qui permettent d'ajouter quelques points. Il y a une deuxième approche, qui est celle de produire des concepts, c'est celle de Gilles Deleuze, et à ce moment-là, on dira que c'est une approche de chercheur qui est réservée à quelques-uns. Il y a une troisième approche, c'est celle de Pierre Hadot, qui est de dire que la philosophie est un art de vivre. C'est l'approche du citoyen, celle du vivre ensemble, vous l'avez bien compris. Puis il y a une quatrième approche, c'est la philosophie, il me semble, comme apprentissage de la pensée. Et peut-être que ce thème n'a pas été ici assez abordé, alors qu'il est fondamental. Je rappelle le thème de nos émissions, le titre que nous avons pris constamment, que vous ne voyez pas toujours, chers auditeurs, mais sur les documents écrits, c'est la référence de Louis Lavelle, qui était un grand philosophe du début du XXe siècle jusqu'aux années 50. La corruption de la parole et de l'écriture, j'ajouterais du langage, est la marque de toutes les autres corruptions. Et en contre-champ, je dirais, la renaissance de la parole et de l'écriture, et donc du langage, est témoignage de toutes les autres renaissances. Pour arriver là, à l'évidence, il faut apprendre à penser. Et cet apprentissage personnel à penser sa vie, à penser soi-même, à penser le monde, à penser ce qui nous arrive, est quelque chose de fondamental. En cela, il est évident que la référence à la philosophie, la pratique philosophique quotidienne, simple et fondamentale, pour essayer de faire en sorte que sa vie devienne une existence et de réussir à réussir sa vie. Dans cette perspective, le document écrit qui accompagnera cette émission comprendra 15 références. Ici, pour ce soir, nous allons en mentionner que 3. Nous allons d'abord mentionner un livre et les références sont pas celles que le professeur de philosophie classique vous conseillera. Il n'y a aucun qui parle de grand philosophe. Le premier est un guide pour un apprenti philosophe qui est paru au PUF et dont l'auteur est Jacques Schlanger, qui est professeur actuellement à l'Université hébraïque de Jérusalem. Un livre tout simple, un petit guide d'un apprenti philosophe que nous sommes tous, moi le premier, très facile à lire et passionnant. Le deuxième auteur, c'est Alexandre Julien, qui a publié plusieurs livres. Et je rappelle que, philosophe de formation, Alexandre Julien est né en 1975 en Suisse. Il a vécu 17 ans dans une institution pour personnes handicapées, moteur cérébral, et aujourd'hui, il publie des livres. Alors, je recommande ce livre, mais tous ces livres sont à lire. Le premier était « Métier d'homme ». Vous verrez quelle belle lecture et quelle belle approche philosophique. Et puis, il y a une série chez Erol qui est absolument passionnant, et vous pouvez lire en particulier « Être heureux avec Spinoza ». Enfin, on arrive à comprendre Spinoza, et enfin, on comprend le bonheur tel que Spinoza le concevait. Christiane Singer, Les âges de la vie, ceci nous intéresse tous. Et puis, ce livre qui n'est pas vraiment de deux philosophes, l'un est incontestablement philosophe, mais Marie de Henzenel, qui est l'autre personne, Bertrand Vergely est plutôt le philosophe, ont écrit un remarquable livre en livre de poche, Une vie pour se mettre au monde, c'est dire l'enjeu de ce livre et du débat qui est derrière. Voilà, laissons ouvert ce débat sur la philosophie en ajoutant seulement qu'il est bien difficile d'imaginer sa vie sans philosophie, quel que soit son métier et quelle que soit sa posture, sous réserve peut-être que parfois la philosophie se fasse plus simple, plus compréhensible, et dans ce dialogue d'écoute, que chacun respecte sa vérité avec un petit V, en quête de vérité qui est toujours à atteindre. Nous allons nous quitter pour le mois de mai, je vais vous souhaiter un bon 1er mai demain, et nous allons nous retrouver 3 fois avant la fin de l'année. Le vendredi 25 mai, nous aurons une émission sur Entre l'Italie et la France. C'est une maison d'édition, Liber Faber, qui se trouve à Monaco. C'est un éditeur audacieux qui nous présentera quelques auteurs, qui nous présentera son approche entre l'Italie et la France et aussi ses projets. Le vendredi 30 mai, le thème sera Vie et écriture, qui n'a pas dans sa jeunesse ou ensuite écrit, voire brûlé ses écrits. Alors, est-ce que pour comprendre sa vie, il est important de l'écrire? Nous allons répondre dans cette émission en faisant une approche assez exhaustive, la plus simple possible et la plus passionnante, vie et écriture. Et enfin, le vendredi 27 juin, excusez-moi, nous aurons dans une émission Renaissance au pluriel sur le terrain des approches très diverses qui nous montreront en cette fin d'année, avant de nous quitter pour les grandes vacances, qu'il y a au niveau des éditeurs, au niveau des lecteurs, au niveau de tout le monde, tous ceux qui gravitent autour du livre, des phénomènes de renaissance absolument incroyables. Et pour cela, nous avons circulé dans la région PACA.